Ulivin Dish, bonjour.
Bonjour.
Alors, la Suisse va célébrer d'ici quelques jours sa fête nationale, l'occasion pour le pays de mettre en avant les valeurs qui sont les siennes, et notamment celles de la démocratie directe. Mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, ces valeurs, cette démocratie directe est encore reconnue par l'ensemble de la classe politico-médiatique suisse?
Alors écoutez, que voilà une très belle question et ô combien pertinente. Donc la fête nationale en Suisse, c'est le 1er août, à savoir après-demain. Et dans ces discours, c'est pas, vous aurez des discours, non pas comme en France, un seul au niveau central, mais dans tous les cantons, dans toutes les communes, tout le monde intervient avec son discours. Et bien entendu, au niveau, disons, abstrait, théorique, on va chanter la liberté, la démocratie directe, le fédéralisme, ça ne fait aucun doute. Mais, voyez, je voudrais souligner là une espèce de schizophrénie, voire une grande hypocrisie. Pourquoi? Parce que ces temps, et depuis pas mal même de mois, les critiques, notamment de la démocratie directe, se font de plus en plus nombreuses, fortes, appuyées, avec des arguments parfois pour le moins surprenants, voire irrationnels. Alors, écoutez bien, on propose, et pas n'importe qui, un laboratoire d'idées, ces fameux think tanks, n'est-ce pas? Un laboratoire d'idées des patrons, des associations économiques, bancaires et autres les plus importantes, nous proposent un droit de vote. Tenez-vous bien, un droit de vote pour les enfants dès la naissance. En fait, ça voudrait dire que les parents qui ont des enfants auraient des voix supplémentaires. Pourquoi cela? Comme parade à la gérontocratie. Vous imaginez? Dans certaines cultures, on met en valeur les personnes âgées, les vieux, qui sont des mémoires, qui sont une longue expérience, qui souvent sont fortes, sollicitées, appuyées. Non, ici, on parle de gérontocratie, de ces vieux qui, n'est-ce pas, risqueraient et sembleraient de temps en temps voter contre le progrès, contre l'ouverture, contre la bien-pensance. C'est évidemment quelque chose d'absolument énorme, et cela fera à coup sûr bien contre-effet. Vous imaginez à quel point les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui ont construit la Suisse, celle dont on hérite maintenant, celle dont on hérite aussi les bien-pensants, ce qu'ils doivent en penser. Alors, on nous dit aussi qu'il faudrait faciliter le droit de vote pour les étrangers. Voyez, c'est les étrangers qui viendront encore au secours de ces bien-pensants et de ces progressistes, un petit peu en parallèle, sans du tout ici être critique. Il y a un extraordinaire pouvoir d'intégration en Suisse de l'immigration. Avec l'immigration classique traditionnelle, la Suisse a certainement le moins de problèmes. Néanmoins, se dire que s'il faut compter sur les étrangers plutôt que sur les vieux, c'est de nouveau, vous imaginez, une insulte aux Suisses qui ont construit le pays d'aujourd'hui. Alors, on avait déjà vu, de tous côtés vient un autre harcèlement, il faut l'appeler ainsi. C'est évidemment la proposition d'augmenter le nombre de signatures nécessaires à un référendum, qui est aujourd'hui de 100 000, qui était il y a quelques années de 50 000, pour montrer que les Suisses étaient tout à fait d'accord d'augmenter ce nombre avec un fort développement de la population. Mais en ce moment, absolument rien ne justifie cela, si ce n'est de nouveau, voyez-vous, la crainte du peuple et donc aussi une certaine haine de la démocratie. N'est-ce pas? On fait appel à la démocratie, à la liberté, quand ça arrange les bien-pensants. Le peuple vote bien quand il vote comme les bien-pensants le souhaiteraient. Sinon, on parle de populisme, et évidemment de populisme de droite. Ça va de soi, n'est-ce pas? Si ce n'est d'extrême droite, bien entendu. Et alors, bien sûr, à l'heure actuelle, vous imaginez, ces bien-pensants ont une trouille énorme en voyant que ces fameux populistes risqueraient d'arriver au pouvoir, par exemple en Autriche, et oh, pire, certains cet intellectuel parle du monstre Trump aux États-Unis, vous imaginez si Trump arrivait au pouvoir, en réalité, il redresserait l'Amérique, c'est tout à fait certain. Mais un travail de sape comme jamais vu est en cours dans les médias, aussi bien européens qu'américains. Mais là, si vous voulez, il y a un autre argument qui revient constamment, c'est que certains référendums, certaines initiatives populaires en Suisse seraient contraires au droit international. En réalité, c'est de nouveau un argument qui est totalement faux. Jamais les initiatives populaires ne contreviennent au droit international, c'est-à-dire aux éléments les plus importants, torture, peine capitale, des choses comme cela. Il n'en est jamais question. C'est encore une fois une nouvelle excuse. On veut brider le peuple. Le peuple dérange, le peuple n'obéit plus. Mais il faudrait s'interroger, n'est-ce pas, qui a mis les pays dans l'état où ils se trouvent actuellement? Ce n'est pas le peuple, ce sont justement ces élites, ces bien-pensants, qui sont responsables de ce qui se passe en ce moment. C'est eux qui sont responsables et coupables de ces révoltes populaires massives qui s'élèvent de tous les côtés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On condamne, on veut condamner les peuples. J'aimerais encore montrer, vous savez, que l'attitude envers le peuple, les électeurs, eh bien, que cette méfiance tout à fait subite et contraire totalement au système politique suisse n'est pas présent qu'en Suisse. Il y a un intellectuel français, qui était même homme politique, ministre, Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? Qui vient toujours nous dire, en Suisse, dans les médias, combien il aime la Suisse, combien il l'apprécie. Eh bien, il faut rappeler à ce monsieur que la Suisse forme un tout et que le système politique est un élément essentiel de la Suisse. Alors, il se lance dans une diatribe formidable, dans un Figaro Vox politique du 6 juillet, pour être précis. Voilà ce qu'il nous dit des référendums, donc de la démocratie, donc de la base de la population dont dépend l'avenir d'un pays, et non seulement des bien-pensants qui sont capables de mettre par terre un pays en l'espace de quelques années seulement. Le référendum ne sert aux autorités politiques à se défausser de leurs responsabilités, en espérant qu'une partie du peuple leur donnera un petit coup de main pour passer en force contre une autre. C'est davantage une lâcheté des élites qu'un courage de leur part. Ne confondons pas démocratie et démagogie. Pardon. Un référendum pour trancher une question délicate est presque toujours une mauvaise idée. D'abord et avant tout parce que les peuples ne répondent jamais à la question posée, mais à celui qui la pose. Vous voyez implicitement ce mépris du peuple, comme quoi le peuple ne serait pas capable de comprendre une question. Bien sûr que la démocratie directe doit être pratiquée constamment et en permanence sur tous les problèmes, et pas épisodiquement. Néanmoins, ce ministre, ancien ministre de l'Éducation, nous ajoute la chose suivante. En vérité, le référendum ne sert aux autorités politiques qu'à dissimuler leur pusillanimité, à se défausser de leurs responsabilités en espérant qu'une partie du peuple leur donnera un petit coup de main. Mais ce qu'il nous dit aussi, ce Luc Ferry, c'est que les personnes éduquées, il nous dit, mais à quoi bon, il a été ministre de l'Éducation, à quoi bon encourager les études supérieures et valoriser les diplômes si on les méprise dès qu'ils peuvent être utiles? À moins de donner toujours et en toutes circonstances de l'humanité, il faut bien accorder une part de confiance à ceux qui savent. Écoutez bien, à ceux qui savent, faute de quoi, de toute façon, la démocratie n'aurait plus aucun sens. Éternellement, ce mépris du peuple, de la démocratie, oui, c'est très grave à un niveau ministériel, et une espèce d'apologie. N'est-ce pas, de ceux qui sont éduqués. Or, on sait quand même aujourd'hui qu'en principe, tous ceux qui dirigent l'Union européenne et d'autres pays ont tous fait de longues études et on voit où ils nous ont amenés. Donc, vous voyez, je pense qu'on entre dans une phase de l'histoire où jamais la révolte contre les gouvernants, les élites, qui sont évidemment massivement bien pensants, que cette révolte n'a jamais été aussi grande, aussi massive et aussi puissante. Et je pense que si ces critiques, cette haine et de la démocratie et du peuple vient de tous les côtés, c'est que ces détenteurs du pouvoir, qui se pensent légitimes alors qu'en réalité ils sont responsables et coupables de la situation des pays, ont une seule crainte, c'est de perdre leur pouvoir. Leur légitimité est déjà sérieusement mise en cause. Maintenant, ils risquent de perdre leur pouvoir. Ce ne sera jamais dit comme cela, mais vous avez aussi des journalistes dans d'autres pays, en France et ailleurs, qui font l'apologie de l'Union européenne et qui vilipendent la démocratie, le référendum, en montrant qu'il faut en aucun cas permettre le référendum au niveau de l'Union européenne, qu'il faut s'y opposer à tout prix, ou bien choisir quelques questions qui ne remettront en rien en cause le pouvoir. Voyez, vous avez par exemple un journaliste de Libération, ça n'étonnera personne, n'est-ce pas, qui nous dit, qui nous parle du Brexit, n'est-ce pas, par exemple, qui nous montre une nouvelle fois à quel point le référendum est à la démocratie ce que les œufs de l'OMPE sont au caviar. Vous imaginez, l'élite se prend pour le caviar et les œufs de l'aube seraient pour le peuple, n'est-ce pas? C'est une. Et alors on dit évidemment qu'à la place de la souveraineté populaire tant vantée, en réalité, ces référendums ne permettent que de révéler les xénophobes, les nationalistes, autoritaires, à l'image bien sûr du référendum. Donc, le référendum ne serait qu'une dictature brutale de la majorité sur la minorité. En résumé, voyez-vous, je pense qu'il faut s'inquiéter très sérieusement de l'aspect massif de cette haine, il s'agit de cela, de cette haine de la démocratie, même si bien sûr ce sera contesté en disant mais pas du tout, nous on veut une démocratie, c'est clair, mais bien sûr ils ne veulent pas n'importe laquelle, celle qui les arrange. Je pense que nous avons là un avertissement très important et que, il va de soi que si des mouvements populistes, en réalité populaires, qui portent les vrais espoirs des populations contre la misère qu'ont amené et les difficultés gigantesques pour des millions de personnes, ces autorités qui aujourd'hui méprisent le peuple et haïssent la démocratie, eh bien, je pense que c'est uniquement parce qu'ils sont délégitimés qu'on voit leur irresponsabilité et qu'ils mériteraient effectivement de perdre le pouvoir et d'être remplacés par plus compétents. Une dernière chose. Tout le monde parle ces temps de guerre civile, de guerre. Mais admettons que réellement il y ait une vraie guerre. Eh bien, vous devinez bien que ce ne sera pas ces éduqués, ces élites et ces experts bien pensants qui iront au front. Ils enverront ces horribles populistes de droite au front se faire tuer. Sans doute que les populistes de gauche seront épargnés en faisant de la propagande au nom du pacifisme. Voilà les situations qui nous attendent. Eh bien, je crois qu'on peut dire que les populismes, contrairement à ce qu'on dit d'eux, du côté des bien-pensants, en les diabolisant, sont porteurs d'espoir et que, contrairement à tellement, tellement de propos diabolisants et méprisants, on risque d'avoir un renouvellement des pays qui sont maintenant dans l'Union européenne, à condition bien sûr qu'on reprenne de la souveraineté populaire dans les différents pays, qu'on respecte les identités et que des gens qui ne pensent pas que mondialisme et autres restent au pouvoir. Voilà un superbe défi et contre l'hypocrisie, je pense que si on veut parler de démocratie et de liberté, il ne s'agit pas que d'en parler un soir lors de la fête nationale, mais tous les jours et surtout de l'appliquer concrètement.
Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Vindy.